Bonjour. Alors j'ai commencé, comme vous le savez, autour de cette question centrale. J'y reviendrai à la fin, lors de mon sixième cours, pour conclure sur cette question. À nouveau, je le répète, qui a inventé l'ADN ? Quelle est l'enzyme qui quel ribonucléotide réductase a été à l'origine de la transformation du monde à ARN en monde à ADN, et on va le faire sur la base de l'analyse de la chimie qui est mise en œuvre par les différentes classes de ribonucléotides réductases. Alors la dernière fois, je vous ai parlé d'une chose qui très, très importante de mon point de vue, puisque j'y étais directement impliqué, c'est la découverte d'une classe de ribonucléotides réductases. Alors, comme je l'ai dit et je vais le répéter, on va laisser tomber les ribonucléotides réductases pour un temps, pour aujourd'hui et pour la prochaine fois. Pourquoi ? Parce que je voudrais faire ce détour par cette grande famille de métalloenzymes, les radicales SAM. SAM, c'est pour S-adénosylméthionine, vous verrez de quoi il s'agit. Enfin, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous savez de quoi il s'agit. Je voudrais faire ce détour là-dessus, sur cette famille, parce que finalement, cette découverte de la ribonucléotide réductase, en même temps que deux grands travaux que je citerai, ont ouvert une perspective tout à fait nouvelle en enzymologie, en indiquant que le système sur lequel on travaillait était en fait un prototype d'une très très grande classe d'enzymes. Et comme vous le savez, c'est une stratégie assez classique du vivant. C'est lorsqu'il y a une bonne solution chimique trouvée à un problème chimique particulier, cette solution est exploitée à l'infini. Et là, c'est particulièrement le cas, vous allez le voir. Alors, je rappelle où nous en étions. Nous en étions... Donc à cette découverte de cette ribonucléotide réductase qui catalyse la réduction des ribonucléotides en désoxyribonucléotides, le réducteur étant du formiate. La grande caractéristique de ce système, c'est que c'est une protéine radicale R et que le radical essentiel à l'activité enzymatique est un radical glycinyl. Vous voyez, c'est sur la chaîne primaire de polypeptidique qu'un atome d'hydrogène a été arraché. Donc ce carbone, ce radical carboné, a trois liaisons, un azote, un carbone de carbonyl et un hydrogène. Et c'est cet hydrogène qui explique le fait qu'en résonance paramagnétique électronique, ce radical, qui est stable en anaérobiose stricte, mais qui se détruit instantanément dès lors que vous mettez de l'oxygène, apparaît comme un se doubler ici, parce qu'il y a un couplage magnétique entre le spin de l'électron et le spin nucléaire de l'hydrogène. C'est un radical glyciné. Et ce que nous avions établi, c'est que ce radical, vous voyez qui est proche du substrat, hein, le substrat c'est ce ribose, mais proche, mais pas suffisamment pour l'attaquer directement, et c'est là que j'avais invoqué le rôle de cette cystéine intermédiaire, et probablement, même si nous ne l'avons pas détecté, l'hypothèse c'est que ce radical sert à arracher un atome d'hydrogène sur cette cystéine, créer un radical cystéinyl ici qui va agir sur le substrat dans une chimie assez complexe. Mais tout est radical. Et comment ce radical se forme ? Il se forme par la combinaison de trois choses. Un électron. Deux, la S-adénosylméthionine. Et trois, un cluster 4 fer 4 soufre. Ce cluster 4 fer 4 soufre va catalyser le transfert d'un électron à ce sulfonium. Je vais en discuter un peu tout à l'heure. Cette molécule a un potentiel redox très très bas. Donc il faut, vous allez voir, il faut toucher à la thermodynamique, c'est quelque chose d'assez fascinant dans ces systèmes, et il faut toucher à la cinétique aussi, et donc c'est le rôle du cluster 4 fer 4 soufre. Donc ce cluster 4 fer 4 soufre catalyse le transfert d'électrons. en injectant un électron sur cette molécule, vous la déstabilisez, vous créez une sorte d'intermédiaire avec S point ici, qui est c'est un radical sulfuranyl, qui va réagir en se cassant ici. Il y a une rupture homolytique de la liaison soufre-carbone pour donner ce radical 5' déoxyadénosyl. Je vous dis tout de suite que personne ne l'a jamais vu, ce radical. Mais il y a tout un tas de démonstrations indirectes qui prouvent qu'il se forme de façon intermédiaire. Avec Peter Richard, je travaillais sur ce système, en même temps et indépendamment, et étant parti plus tôt, il y avait un formidable travail du biochimiste allemand Joachim Knappe, qui est vraiment un chimiste extraordinaire et qui est décédé, je crois, en 2007, qui travaillait sur une enzyme dont je ne parlerai pas. J'ai choisi de parler d'une autre enzyme pour illustrer cette grande famille, la pyruvate formate-lyase. Déjà, au milieu des années 60, je ne connaissais pas cette littérature au moment où on a attaqué le travail, Knappe savait que cette enzyme avait besoin de S-adénosylméthionine, qu'elle était coupée au cours de la réaction, et c'est le premier qui a démontré la présence d'un radical glycinyl sur une protéine. Ça, c'est en Allemagne. Aux États-Unis, il y avait Perry Fry, dans l'université de Wisconsin, qui est aussi un grand biochimiste du XXe siècle, qui travaillait sur une enzyme dont je parlerai un petit peu, qui est la lysine aminomutase. Là aussi, il avait démontré que la SAM était nécessaire, que la SAM était une source de radicaux et non pas de méthyle, comme c'est le cas le plus souvent, et que c'était une enzyme fer soufre. Voilà. Et nous, de notre côté, avec la ribonucléotide réductase, lors de mon travail avec Peter Richard, qui est aujourd'hui à la retraite en Italie. Donc on découvrait cette ribonucléotide réductase dont j'ai parlé la semaine dernière, et on avait montré, donc, comme je vous l'ai indiqué, que la SAM était nécessaire, qu'il y avait un cluster 4-fer-4-soufre. On était allé un peu plus loin dans la caractérisation de cet aspect fer-soufre, et que là aussi il y avait un radical glycinyl. Donc il y avait un certain nombre d'informations comme ça qui convergeaient. En 2001, alors il y a eu toute cette période qui a explosé dans les années 90 et puis qui maintenant continue. Chaque jour ça change, mais on doit connaître actuellement complètement près d'un millier de génomes. On doit être à 800 ou 900 génomes connus, complets. Donc c'est assez extraordinaire. Et évidemment, on peut commencer à analyser tous ces génomes pour pour avoir des informations sur la conservation des systèmes, sur l'évolution, enfin voilà. Et vous souvenez que j'avais dit que le cluster 4-fer-4-soufre, il était coordonné par trois cystéines qui avaient cette séquence-là. Cystéine, trois acides aminés, cystéine, deux acides aminés, cystéine. Il s'avère que la pyruvate formate-lyase avait également cette signature et la lysine aminomutase également. Et en 2001 est apparu un papier qui a fait un grand boom. C'était la première analyse génomique de cette famille-là, uniquement avec cette séquence, papier de Sophia dans Nucleic Acid Research, qui annonce 600 protéines qui contiennent cette séquence et qui probablement constituent une famille. Il n'y a pas très longtemps, Jean Weissenbach, que vous connaissez peut-être, qui est un grand spécialiste de l'analyse des génomes, qui est à l'Institut de génomique d'Evry, me disait qu'actuellement, il s'intéresse à ces systèmes-là. Actuellement, on en est à 5000 séquences dans le vivant, tous organismes confondus, eucaryotes, prokaryotes, archées, qui contiennent cette séquence. Et jusqu'à présent, tous ceux qui ont pris un de ces systèmes avec cette séquence-là et regarder comment il fonctionnait. Donc ça n'a pas été fait 5000 fois, hein, mais ça a bien été fait maintenant une vingtaine de fois. Eh bien, il y a chaque fois, de façon évidente, une protéine qui est une protéine fer-soufre, qui utilise de la S-adénosylméthionine et qui probablement fonctionne par un mécanisme radicalaire. Ici, il y a quelques exemples. C'est ceux que je montre. Enfin, le plus souvent, j'ai mis en rouge les systèmes sur lesquels on travaillait. Ça me permet d'introduire Hamid Attar, qui est directeur de recherche au CEA, qui va vous parler d'aspects de réparation de l'ADN. Mais ce que cette première diapositive vous montre, c'est la grande diversité d'activités dans lesquelles ces protéines sont impliquées. Ça peut être différents métabolismes, vous voyez, pyruvate, toluène, lysine. Ça peut être la synthèse de l'ADN, ça peut être la synthèse de cofacteurs comme la biotine, l'acide lipoïque, et ça peut être de la chimie sur des macromolécules, réparation d'ADN, on en entendra parler pour illustrer cette chimie-là. Ça peut être de la modification d'ARN de transfert dont je parlerai la prochaine fois. Et on écoutera aussi Olivier Berthaud sur ces aspects. Aujourd'hui, ces milliers de protéines interviennent, vous voyez, dans une très très grande diversité. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est exactement la même chimie qui est utilisée dans tous ces processus-là. Biosynthèse de différents cofacteurs, j'en ai déjà parlé, en voici d'autres, molybdoptérine. Diverses étapes, un grand nombre d'étapes dans la synthèse d'antibiotiques complexes, voilà quelques-uns de ces antibiotiques, de vitamines, biotine, thiamine. Je passerai un peu de temps sur la thiamine parce que vous verrez à quel point une chimie radicalaire est efficiente dans la transformation de la matière. Synthèse d'alcaloïdes, synthèse de chlorophylle, métabolisme de sucre, métabolisme d'acides aminés, d'hydrocarbures et modification de tout un tas de macromolécules, ARN de transfert, enzymes, réparation d'ADN, etc. etc. Et vous voyez, quand on dit... et on dit ça, et on continue à dire ça, et on l'a dit pendant longtemps, que... les radicaux en biologie sont des choses à exclure, que la nature fait tout ce qu'il faut pour les éviter. Voilà, il faut changer complètement cette idée-là. La nature choisit de faire des radicaux extrêmement réactifs, et donc toute la question, enfin, pour faire tout un tas de réactions, parce que, évidemment, c'est la meilleure façon de le faire. Évidemment, ça a un risque et ça a un coût, puisque pour manipuler des radicaux, il faut mettre en œuvre des stratégies moléculaires d'une très grande finesse, pour ne pas perdre les radicaux en route qui sont très réactifs, pour les contrôler aller jusqu'au bout de cette chimie. Ça, c'est vraiment une des grandes leçons de tous ces travaux. Et si vous partez avec cette idée-là, c'est déjà pas mal. Voilà, alors simplement quelques-unes des réactions que je voulais vous montrer, parce que pour le moment, j'ai parlé de réparation d'ADN, j'ai parlé de modification de métabolisme, etc. Alors, vous voyez, ça, c'est la réaction qui se passe dans la ribonucléotide réductase. Hein, c'est simplement ici. C'est une modification, finalement, d'une protéine, puisque on transforme une glycine de la chaîne polypeptidique en radical glycinyl. Voilà ici la réaction de biosynthèse de la biotine. C'est la dernière étape où on introduit un atome de soufre, vous voyez, sur des carbones qui sont très, très peu activés. Même chose pour l'acide lipoïque. Vous voyez, avec l'introduction d'atomes de soufre sur des sites, vraiment sur des carbones très peu activés. Ça, c'est la réaction de réparation d'ADN. Vous voyez, c'est un dimère de thymine qui s'est formé sous irradiation. Eh bien, il y a une enzyme qui répare ça de façon radicalaire, et Hamid va nous parler de cela. Voilà quelques réactions de modification d'ARN de transfert. Ici, j'ai présenté des petites molécules, mais c'est un ARN, hein, c'est une grosse molécule, ce sont les nucléosides. Et vous voyez que c'est des chimies que les chimistes ne savent pas réaliser. Hein. Soufrer un noyau aromatique comme ça, créer une liaison carbone-soufre, changer une liaison CH en CS, c'est difficile, de la même façon qu'introduire Oui, ici, c'est encore plus extraordinaire, hein, puisque vous voyez la complexité de la modification. Voilà. Alors, la ribonucléotide réductase, c'est un prototype d'une sous-classe de radical SAM, parce qu'on sait maintenant qu'il y a plusieurs protéines qui ne fonctionnent que si elles contiennent un radical glycinyl. À nouveau, la nature a choisi, de temps en temps, plutôt que de faire agir les radicaux directement sur les substrats, de passer par un radical intermédiaire sur la protéine. Je ne sais toujours pas très bien pourquoi. C'est un avantage dans certains cas et pas dans d'autres. En tout cas, vous voyez que cette transformation, synthèse du benzyl succinate qu'on trouve chez des bactéries, de la glycérol déhydratase, la ribonucléotide réductase, la pyruvate formate lyase, la parahydroxyphénylacétate décarboxylase, qui sont des enzymes du métabolisme d'hydrocarbures chez des bactéries, tout ça, toutes ces enzymes sont des enzymes qui deviennent à un moment donné radicalaires et ne sont actives que s'il y a une glycine qui est radicalisée. Si on continue l'histoire, la première structure aux rayons X dans cette famille-là a été obtenue par Dieter Jahn en Allemagne. Vous voyez, c'est un travail de 2003 qui a montré tout de suite directement comment le cluster 4 fer 4 soufre et la S-adénosyl-méthionine s'assemblaient. On l'a vu pour la première fois directement. Vous voyez cette protéine, il y a une sorte de... C'est un tonneau, là. Hein, c'est vraiment un tonneau bêta, de feuillet bêta. Et sur une boucle, vous avez le cluster 4-fer-4-soufre. Et là, on voit directement que la S-adénosyl-méthionine, qui est ici, est accrochée au cluster 4-fer-4-soufre. Les trois cystéines de la fameuse signature sont là, en vert, accroché à trois atomes de fer, et il y a un quatrième atome de fer qui accroche la S-adénosylméthionine par son bout aminocarboxylate. Voilà, c'est une enzyme qui est impliquée dans la biosynthèse des porphyrines, des macrocycles tétrapyroliques. Juste pour vous dire où ça se situe, ce sont des réactions tout à fait intéressantes. La vitamine B12, certains coenzymes, F430, SIRO-M, l'HEM dans les hémoprotéines, la chlorophylle, tout ça vient de toute une série de réactions qui part de l'acide aminolévulinique, qui est ici, je ne détaille pas. Et à un moment donné ici, vous avez une décarboxylation de cette molécule, de ce macrocycle. Vous voyez, il y a des décarboxylations pour former les doubles liaisons ici. Et là, c'est là qu'intervient une enzyme radicale SAM. Et c'est l'enzyme dont on a la structure aux rayons X. Voilà, cette protoporphyrinogène synthase, premier exemple de structure aux rayons X, donc catalyse cette décarboxylation. Et l'idée, c'est que vous avez formation, à nouveau, transfert d'électrons du fer soufre à la SAM, formation du radical 5' déoxyadénosyle qui vient arracher un de ces atomes d'hydrogène et vous avez ce radical intermédiaire qui est stabilisé évidemment par délocalisation électronique et ensuite par départ d'un électron, il y a un accepteur d'électrons, vous avez décarboxylation. Voilà. Voilà pourquoi une réaction radicalaire ici est utile. Vous voyez que ça marche assez bien sur le plan chimique. Alors, depuis, il y a un certain nombre de structures aux rayons X qui ont été obtenues, des radicales SAM. Et non content, évidemment, d'avoir la même signature, la similarité, la similitude des systèmes va jusqu'à la structure elle-même. Voyez la très grande ressemblance de ces systèmes pour faire des choses très, très différentes. Voyez, des fonctions très très différentes, et la question c'est comment ces structures-là agissent sur des substrats aussi différents. Mais simplement pour vous montrer que ces protéines sont toutes organisées de la même façon, avec un tonneau bêta qui est en gros, le site sur lequel viennent se fixer, à l'intérieur duquel, une sorte de tonneau vraiment, hein, à l'intérieur duquel viennent se fixer les substrats. Et vous avez chaque fois sur la boucle le cluster fer-soufre avec le radical SAM, avec la SAM, pardon, la S-adénosylméthionine qui est fixée. Voilà. Et tous ces systèmes fonctionnent exactement de la même façon. Au départ, parce qu'évidemment les substrats sont très différents, donc la chimie qui se fait une fois que le radical a atteint un substrat, évidemment, tout ça est différent. Mais en amont, tous ces systèmes combinent un cluster fer-soufre avec la S-adénosylméthionine, il y a fixation à nouveau par la partie aminocarboxylate. Ce cluster 4-fer-4-soufre a récupéré un électron et l'injecte, et ça conduit à la cassure, ici, de la liaison soufre-carbone, pour donner ce fameux radical 5'-déoxyadénosyl. En même temps que libère de la méthionine, hein, parce que l'autre partie, c'est de la méthionine. Et c'est ce radical, à nouveau, je le répète, très, très, très réactif. Hein, l'énergie de la liaison carbone-hydrogène, ici, c'est 100 kcal par mol. Hein, c'est pratiquement ce qui se fait de plus élevé en énergie. Et donc, ce truc-là n'a qu'une envie, c'est de trouver un atome d'hydrogène pour le récupérer, pour l'arracher. Ce faisant, il produit un radical secondaire. Donc, ce que font toutes ces enzymes, c'est former ce radical intermédiaire pour arracher un atome d'hydrogène sur un substrat. Ça peut être une protéine, et c'est le cas de la formation des radicaux glycinyles, ou ça peut être un substrat, le précurseur de la biotine, l'acide octanoïque pour la biosynthèse de l'acide lipoïque, un atome d'hydrogène d'un nucléoside dans un ARN de transfert, enfin, etc., etc. Et après, une fois que ce radical sur le substrat est formé, il y a des chimies un peu différentes. Et évidemment, si la nature a choisi de faire cela en prenant, je vous l'ai dit, tous les risques et les coûts possibles de gestion des radicaux, c'est parce que, globalement, il n'y a pas d'autre façon d'activer des sites, par exemple carbonés, aussi peu réactifs qu'un méthyle en bout de chaîne ou qu'un hydrogène aromatique. Et donc, si on crée quelque chose comme ça, qui va être très, très, très bon pour arracher l'atome d'hydrogène, on va créer une entité qui, à ce moment-là, devient très réactive. On a activé le substrat en faisant cela. C'est une très bonne façon d'activer un substrat, c'est de le transformer en radical. Mais en même temps, la raison pour laquelle les chimistes mettent rarement au point des réactions utilisant des radicaux, c'est parce que, autant la nature a réussi à gérer ces radicaux très réactifs et les rendre sélectifs, autant dans un tube à essai, comme ça, simplement, c'est beaucoup plus difficile. Et tout l'enjeu, enfin un des enjeux de l'étude, dans l'étude de ces systèmes, c'est de comprendre comment la nature fait pour gérer ces radicaux. Et vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai raconté que ce radical, il était en fait généré sur une protéine, qui était la sous-unité bêta de la ribonucléotide réductase, pour aller arracher un atome d'hydrogène sur une deuxième protéine, et un atome d'hydrogène très enfoui au sein de cette deuxième protéine. Et toute la question, c'est... Et que cet arrachage se faisait directement. Donc vraiment, c'est assez fascinant. Comment est-ce possible? Comment ce truc-là peut se balader d'une protéine à une autre tout en restant radicalaire, sans arracher au passage tout ce qui lui passe sous les yeux? Voilà, quelques mots sur les acteurs de cette famille. Bon, les clusters 4-fer-4-soufre, j'ai déjà montré la dernière fois de quoi il s'agissait. Je vais aller vite. Donc, ce sont des assemblages d'atomes de fer et de soufre. Les soufres, ce sont des atomes de soufre. Hein. C'est du sulfure qui ponte plusieurs atomes de fer et l'ensemble est accroché à la protéine par des acides aminés. Le plus souvent des cystéines, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà un cluster 4-fer-4-soufre. Voilà une structure rayons X avec un cluster 4-fer-4-soufre. Juste un peu d'histoire sur le cluster fer-soufre. C'est dans les années 60, je ne sais pas si j'ai... Voilà, Helmut Beinert, un grand monsieur de la biochimie, juif allemand, qui a quitté l'Allemagne pour aller aux États-Unis au moment de la guerre, et qui a découvert les protéines fer soufre, notamment, et c'est le début de l'histoire des protéines fer soufre, et ils ont été impliqués dans des processus de transport et transfert d'électrons, dans la photosynthèse, dans la respiration. Ce sont les années 60. Au début, je trouvais ça, du point de vue chimique, pas très intéressant. Quand j'ai trouvé qu'il y avait un cluster fer soufre dans mon enzyme, dans la ribonucléotide de réductase, je trouvais pas ça passionnant parce que les clusters fer soufre, en gros, étaient connus surtout pour prendre un électron, le donner. Bon, je trouvais pas ça passionnant. Même si ces processus sont impliqués dans des réactions, dans des phénomènes absolument majeurs du vivant, photosynthèse, respiration. Voilà, vous voyez, il y a des protéines complexes comme justement le complexe 1 du système respiratoire avec tout un tas de clusters fer soufre qui permettent de balader des électrons sur une très longue distance à travers des membranes. Enfin, vous voyez, c'est un outil très intéressant de ce point de vue. Si je continue l'histoire, dans les années 70, on s'est aperçu que ces cluster fer soufre avait d'autres fonctions. Pouvait faire de la catalyse. Là, c'était plus intéressant de mon point de vue. L'exemple typique, c'est la conitase. Vous voyez ici la structure aux rayons X de la conitase avec un zoom. Le substrat est là, accroché au cluster fer soufre. Et là, le cluster fer soufre joue un rôle d'acide de Lewis, c'est-à-dire qu'il va polariser des liaisons, notamment les liaisons carbone-OH, et ça va permettre une déshydratation de la molécule substrat. Voilà le type d'utilisation qu'on peut faire d'un cluster fer. En 90, à partir des années 90, il y a cette découverte que finalement tout un tas de systèmes de régulation de l'expression des gènes, aussi bien au niveau transcriptionnel que traductionnel, sont des protéines fer soufre. La nature a choisi de mettre des protéines fer soufre dans des facteurs de transcription, dans des facteurs de traduction, et ça, c'est un domaine important de développement aujourd'hui. La découverte de ces enzymes radicales SAM, c'était une nouvelle fonction des enzymes fer-soufre, des clusters fer-soufre, et c'est cette catalyse redox dont j'ai parlé, avec coupure réductrice de sulfonium comme la S-adénosylméthionine qui est là. Il y a peu de temps, compte tenu de l'explosion de ce domaine, du constat que la nature choisissait des clusters fer soufre de façon abondante, je me suis posé la question de quantifier un peu les choses. D'ailleurs, on continue avec Sandrine Ollagnier, Yves Vandenbroek à Grenoble, à faire de la génomique et de la protéomique sur les protéines fer soufre. C'est assez compliqué, je ne vais pas détailler pourquoi, mais finalement, je me suis posé la question combien il y a de protéines fer soufre dans un organisme. Et voilà, si on prend un organisme comme Escherichia coli, hein, qui est the modèle vivant, il y a à peu près 4000 gènes dans coli. Voilà, on peut évaluer à peu près, il y en a une centaine aujourd'hui de connus et démontrés comme étant fer soufre et potentiellement, sur la base de certaines analyses, on arrive à 200. Oui, donc il y a quand même 200 protéines fer soufre sur 4000 dans un organisme comme Escherichia coli. Bon, ici, je ne veux pas rentrer dans le détail des répartitions, des différentes fonctions. Ce qui est tout à fait intéressant à noter, c'est que même s'il y a une grande variété de clusters fer soufre, plus de 90% des protéines fer soufre contiennent un cluster 4 fer 4 soufre. Donc c'est le cluster 4 fer 4 soufre qui est vraiment le type de cluster du vivant. Oui, on a essayé pour identifier où sont les clusters ou les protéines fer soufre dans les génomes, de se dire ben, si on a des signatures sur les cystéines, on va trouver tout de suite. Le problème, c'est qu'il y a une très grande diversité de signatures et donc ce n'est pas un outil très performant. Donc on essaye de trouver des méthodes pour détecter des protéines et prévoir des protéines fer soufre dans les organismes. Ce qu'on observe, c'est que ce qu'on observe, c'est que dans le dans l'évolution, enfin, si on regarde les différents domaines du vivant, très simplement eucaryotes, procaryotes, archées, là, on observe quelque chose d'intéressant, c'est que les archébactéries sont très riches en protéines fer soufre, que les bactéries le sont un peu moins et que les eucaryotes le sont encore moins. On a l'impression, si vous voulez, qu'au cours de l'évolution, le vivant s'est débarrassé des fer soufre. Et en même temps, cela signifie que ces protéines fer soufre sont présentes très tôt à l'origine de la vie. Et il y a cette idée assez générale, je le redirai, puisqu'on va se préoccuper à nouveau de revenir à l'ADN et qui a inventé l'ADN, il est communément admis que les systèmes fer soufre sont assez primitifs et que, évidemment, ont un lien avec une chimie qui s'est faite à la surface de sulfure de fer, de genre pyrite, qui était très abondant, et qui sont toujours très abondants, à la surface de la Terre et très réactif. Voilà. La S-adénosylméthionine, excusez-moi, elle est là. La non, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. La S-adénosylméthionine, bon, est soumise dans le vivant à un cycle assez classique, et en particulier parce que ce qu'elle fait le plus souvent, et jusqu'à la découverte des enzymes radicales SAM, on ne savait que ça de la SAM. À savoir que c'était un donneur de méthyle. Hein, je l'ai déjà dit, le méthyle ici est très électrophile. Donc, vous pouvez méthyler tout un tas de molécules, ADN, lipides, protéines, ARN, enfin, etc., etc., dans des enzymes qui s'appellent des méthyltransférases. Vous voyez, il y a un nucléophile qui a été méthylé, et de ce fait, la molécule ici a perdu le méthyle et devient SAH, S-adénosyl homocystéine. Et cette SAH est ensuite transformée pour redonner la SAM. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce cycle. Ce que je veux simplement dire, c'est que la SAM, puisque je parlais un peu d'évolution du côté des fer soufre, on peut aussi noter que la SAM est une combinaison de méthionine et de ribonucléoside. On a là une petite molécule probablement présente dans le monde ARN protéine dont j'ai parlé lors de mon premier cours, et probablement là depuis très très longtemps. Une chose qu'on s'est bien amusé à regarder avec Hamid, qui va intervenir tout à l'heure, a été publiée dans cette revue et qui s'appelait Nothing Goes to Waste. On avait envie avec Hamid de l'appeler Tout est bon chez elle et il n'y a rien à jeter. Comme le disait Brassens. Le problème, c'est que les éditeurs anglais n'ont pas apprécié tellement ce titre-là. Ce qui est extraordinaire avec la S-adénosylméthionine dans le vivant, ce dont on s'est aperçu, c'est que non seulement le méthyle est utilisé, mais des tas de morceaux de la S-adénosylméthionine sont exploités pour faire des transformations. Ici, vous pouvez avoir l'introduction d'un méthylène plutôt que d'un méthyle qui vient de ce méthyle. Vous pouvez avoir dans cette transformation qui est une des étapes de la biosynthèse de la biotine, vous pouvez avoir simplement un morceau, le groupe amine, ici. Voyez ici, vous avez un morceau de... du ribose, de la SAM, qui est utilisé pour transformer un ARN de transfert. Ici, vous avez toute cette partie rose, qui est la partie aminocarboxylate avec deux carbones qui sont utilisés pour faire ce composé, et ainsi de suite. Vous voyez, là aussi, vous avez une modification d'ARN de transfert qui prend ce morceau de la SAM. Voilà, donc c'est assez extraordinaire. Avec une seule molécule, la nature fait des tas de choses. Voilà. Alors, je vais vous montrer, en prenant un exemple, j'en ai plusieurs, et puis quand ça sera l'heure, je m'arrêterai. J'ai choisi, parce que c'est peut-être le système qui a été très tôt le plus élaboré, enfin le plus étudié, dans le détail, notamment, on n'échappe pas à ça quand on fait de la chimie radicalaire, les techniques de résonance paramagnétique électronique. Encore une fois, je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps de développer ce que c'est. Retenez simplement que lorsqu'il y a un électron célibataire, comme dans un radical, des techniques d'analyse d'objets paramagnétiques comme la résonance paramagnétique électronique permettent d'avoir des signaux qui sont utilisés pour identifier, caractériser l'espèce paramagnétique, et ça peut être un radical carboné organique. Voilà, Perry Fry, qui est vraiment un chimiste, biochimiste extraordinaire. Voilà quelques articles de revue dans lesquels il explique ce qu'il a fait. Et puis d'autres articles de revue plus récents. C'est à nouveau un domaine en pleine explosion sur lequel on est, pour des raisons historiques que j'ai évoquées, et puis parce que je crois qu'on a produit, notamment avec Hamid, un certain nombre de résultats intéressants. C'est la lysine aminomutase. Alors, qu'est-ce que c'est que la lysine aminomutase ? C'est une enzyme, vous voyez, qui fait une chimie qui n'est pas si facile que ça. Voilà la lysine, vous voyez, la partie aminocarboxylate, et qui interconvertit la lysine en bêta-lysine, où vous avez ce groupement NH3 qui passe d'un carbone à un autre. Ici, il est sur le carbone 3, ici, il est sur le carbone 2. Alors, cette enzyme, elle existe parce que certaines bactéries décomposent la lysine pour récupérer le carbone et l'azote qui est présent pour son métabolisme. On trouve des bêta-lysines dans certains antibiotiques. Vous voyez ici. Il y avait un certain nombre d'informations sur la chimie de cette transformation. Cet hydrogène migre en deux et l'ammoniac migre d'un carbone à l'autre avec inversion de configuration. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'assez tôt, on a découvert que ces enzymes sont des enzymes à cofacteur pyridoxal phosphate. Alors ça, c'est un cofacteur qui est très utilisé aussi par le vivant, notamment ce cofacteur qui est indiqué ici fournit cette fonction aldéhyde qui est très réactive. Et on verra comment. Voilà. Donc, Perry Fry avait démontré que cette enzyme est une enzyme radicale SAM, donc elle fait ça. Elle réduit, grâce à un cluster fer-soufre, la SAM en ce radical. Et ce radical, ensuite, va arracher un atome d'hydrogène sur le substrat. Alors, le substrat, en fait, la fonction... le pyridoxal phosphate est accroché à l'enzyme, mais vous voyez, il n'y a plus la fonction aldéhydique, c'est une fonction imine, parce qu'il y a eu une réaction entre une lysine particulière de la protéine avec le pyridoxal phosphate. Alors, il y a une réaction avec la lysine, et à ce moment-là, vous formez un lien, vous perdez le lien avec la lysine, et vous formez un lien imine à nouveau, mais là, c'est avec l'amine de la lysine, et vous voyez, maintenant, c'est la lysine qui est accrochée. Et c'est là qu'intervient le radical. Il arrache un atome d'hydrogène, ici. Il arrache 7 atomes d'hydrogène. Ceci ensuite évolue vers cet intermédiaire cyclique. Vous voyez, avec un électron qui vient réagir avec ce radical, et il y a un électron célibataire qui est produit au niveau de ce carbone. C'est parce qu'on a une sorte d'intermédiaire symétrique ici qu'on peut soit revenir en arrière, soit évoluer vers cet intermédiaire radicalaire, où là, si on ouvre, vous voyez, de façon homéolytique ici, à gauche, on revient en arrière. Si on ouvre à droite, eh bien, l'azote est passé sur l'autre carbone. Vous voyez ? Et c'est ainsi que, et ensuite, on relibère le produit et on revient au pyridoxal phosphate, ici accroché à la lysine. Et donc, c'est par le biais de cette formation de radical intermédiaire ici que l'azote peut passer d'un carbone à un autre. Voilà. Alors, simplement vous dire qu'il y a eu un travail formidable fait par les spectroscopistes. Ils ont fait tout un tas de marquages de la molécule. La première chose, c'est qu'ils ont, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ils ont observé un premier spectre RPE qui a été caractérisé par tout un tas de marquages de la lysine. C'est juste en mettant de la lysine. Donc ils ont mis spectre A que de la lysine, vous voyez ce spectre. Et puis lorsqu'ils ont fait du marquage au deutérium ou au carbone 13, ils ont vu des modifications de spectre et ceci a pu être interprété comme étant ce radical-là. Donc ils ont pour la première fois démontré un intermédiaire radicalaire dans les radicales SAM, c'est dans l'histoire des radicales SAM, c'est la lysine aminobutase, et ils ont pu détecter ce radical-là. Donc la vision de ce mécanisme qui initialement était un mécanisme hypothétique a été d'abord validée par l'observation de ce radical. Ensuite, Perry Fry a utilisé tout un tas d'analogues de substrats. Il a mis un soufre ici, et là, à nouveau, donc la thialysine, à nouveau, il a observé un spectre qui a été modifié. On le marquait au deutérium ou au carbone 13. Et là, c'était ce radical-là, donc après arrachage d'un atome d'hydrogène ici, stabilisé par le soufre en alpha, et deuxième radical. Donc, à nouveau, ce mécanisme était particulièrement soutenu. Et là, on peut comprendre pourquoi il a fait cette molécule. Si on doit créer un radical ici, il va être stabilisé par. On va obtenir un radical allylique, stabilisé par cette double liaison. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ce radical, il est là, tout un tas de marquages. Et ce radical est particulièrement stabilisé parce que vous avez cette double liaison. Voilà, donc ce mécanisme a été très très bien développé, très très bien validé. Donc il n'y a pas de doute, il y a des intermédiaires radicalaires qui sont contrôlés par le système. Peut-être le plus beau travail de mon point de vue, c'est celui-là. Des tas de gens ont essayé de détecter par cette méthode-là le radical 5' déoxyadénosyle. Personne n'y est jamais arrivé. Il faudra qu'on essaye encore avec d'autres systèmes. Mais ce qu'a fait Perry Fry, c'est assez joli. Il a introduit une double liaison ici. Et là, vous comprenez bien pourquoi. Parce que si on fait une rupture de la liaison soufre-carbone, on va créer un radical allylique. En même temps, on va perdre dans la réactivité, hein, parce qu'il va être plus stable. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que le radical 5' déoxyadénosyle, c'est 100 kcal par mol. En mettant une double liaison ici, on crée un radical là, on tombe à 85 kcal par mol. Donc, il y a des tas de réactions qu'on ne va pas pouvoir faire hein, pour arracher des atomes d'hydrogène. Mais néanmoins, avec la lysine aminomutase, il y a un peu d'activité et il détecte un signal très complexe. Là aussi, tout un tas de marquages et des calculs théoriques, et il montre qu'en effet, ce qu'il détecte, c'est l'équivalent du radical 5' déoxyadénosine qui est là. C'est un radical allylique. La différence avec le vrai à deux points, c'est qu'il n'y a pas de double liaison ici. C'est la seule différence. C'est une différence importante, mais à nouveau, ça montre que ce que font ces enzymes, c'est d'envoyer un électron à ces sulfoniums et de casser la liaison soufre-carbone ici. Là aussi, vous pourriez vous demander, on ne sait pas très bien, peut-être qu'on va découvrir des réactions qui font autrement. Ce soufre, il est fixé à trois carbones différents. Jusqu'à présent, la rupture ne s'est passée que sur une des liaisons. On pourrait imaginer former des radicaux CH3 points ou des radicaux ici, CH2 points, sur cette partie-là. Voilà. Bon, simplement pour vous dire qu'en 2005, Perry Fry a pu obtenir une structure rayons X de la lysine aminomutase. La voilà. À nouveau, vous reconnaissez le feuillet bêta. Et puis si on zoome, vous avez votre cluster 4 fer, 4 soufre. Vous avez la S-adénosylméthionine. Qui est accroché ici. Voilà le site carbone où doit se créer le radical après cassure de cette liaison. Et voilà un analogue de substrat accroché sur le pyridoxal phosphate avec la liaison imine ici, vous voyez, c'est magnifiquement positionné. Le radical, et là on est dans un cas, vous voyez, où le radical, enfin, le radical qui est formé, 5' déoxyde adénosyle, contrairement à la ribonucléotide réductase, qui, où il doit y avoir un long chemin pour que ce radical agisse sur le substrat, ici, tout est fait, tout est confiné pour que ce radical, une fois qu'il est formé, bam, il tape sur le substrat qui est juste en face. Bon, ça, je ne veux pas intervenir là-dessus. Alors ça, c'est très, très intéressant. Si vous permettez. Cette réaction, elle a des tas de contraintes. Je l'ai dit cinétique, mais aussi thermodynamique. Et vous allez voir que un certain nombre de... On commence à comprendre un peu comment ces contraintes thermodynamiques sont levées. Si vous prenez la SAM, toute seule, vous la mettez dans une cellule électrochimique et puis vous mesurez son potentiel redox, vous avez moins 1,8 volts. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire des sulfoniums, on s'aperçoit que les sulfoniums étaient utilisés à une époque comme celle de fond en électrochimie, et puis on s'est aperçu que quand on descendait trop bas en potentiel, ça se réduisait, mais il fallait vraiment descendre très bas. Donc là, moins 1,8 volts, il n'y a aucun système biologique qui est capable d'envoyer un électron à moins 1,8 volts. De la même façon, un cluster 4 fer 4 soufre, comme celui de la lysine aminomutase, c'est presque moins 500 millivolts. C'est assez difficile. Là, on est à la limite. Il y a des systèmes qui peuvent descendre à moins 500 millivolts, mais là, on est vraiment à la limite. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand la S-adénosylméthionine se fixe sur le cluster, à ce moment-là, on gagne 50 millivolts. On est autour de moins 400 millivolts. C'est pas mal, on a gagné, et là, à moins 400 millivolts, évidemment, ça devient plus facile thermodynamiquement à réduire les clusters. Donc la fixation de la SAM sur le cluster est peut-être un signal qui permet à une source d'électrons, une flavodoxine, d'envoyer un électron dans le cluster. Autre chose très très intéressante, c'est que lorsque le substrat se fixe, vous voyez, là, il n'y a toujours pas le substrat. Il n'y a que le pyridoxal phosphate. Quand la lysine se fixe sur le pyridoxal phosphate, parce que, vous voyez, on a un cluster qui est à moins 430. Alors, c'est bien pour le réduire, mais par contre, pour qu'il donne un électron, il est moins bon. Surtout pour donner un électron à moins 1,8 volts. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, il y a cette chose extraordinaire que quand le substrat se fixe, à ce moment-là, le potentiel redox du cluster passe à moins 600 et le potentiel redox de la SAM passe à moins 900 millivolts. Alors, il reste encore 300 millivolts, c'est quand même beaucoup, mais on est passé d'un écart de 1,4 volts à 0,3 volts. C'est colossal. Donc, thermodynamiquement, on a en partie résolu le problème. Alors, ici, il faut comprendre comment c'est possible. Évidemment, il faut tenir en compte qu'il y a tout un tas de réactions qui sont couplées à ce transfert d'électrons entre le fer soufre et la SAM. Mais vous voyez le type de thermodynamique, de problèmes thermodynamiques qui sont posés par ces systèmes. Je vais dire quelques mots pour terminer de la biosynthèse de la thiamine. Là encore, vous allez voir pourquoi c'est intéressant d'utiliser des réactions radicalaires. Vous allez voir des transformations de molécules absolument extraordinaires, comme il est difficile de les imaginer. Et je vois mal comment un chimiste pourrait imaginer en une seule étape une telle réaction. Alors, la thiamine a été découverte à partir de riz comme une molécule, vous savez sans doute ça, qui réversait les effets du beriberi chez les animaux. Donc, elle a été caractérisée entre les années 1890 et 1900 par ce monsieur, Eichmann. Et elle a été purifiée en 1933. Et Eichmann a eu le prix Nobel en 1929. Alors, c'est synthétisé par les bactéries, par les plantes, par les levures, mais pas chez l'homme. Donc, c'est une vitamine. Et donc nous la récupérons de notre alimentation. Voilà la thiamine pyrophosphate. Alors, voie de biosynthèse extrêmement complexe, qui part ici d'une part du glycéraldéhyde phosphate qui va rentrer dans la chaîne, de la cystéine pour les atomes de soufre, c'est comme ça que les atomes de soufre rentrent, vous avez vu qu'à la fin... où elle est, il y a un atome de soufre ici, de la tyrosine, de la glycine. Donc il y a tout un tas de précurseurs qui rentrent pour faire cette petite molécule là. Et puis aussi de ce ribonucléoside. Tout un tas d'enzymes. Simplement, on va observer qu'il y a deux enzymes radicales SAM dans tout ce processus. Il y a la protéine TIC, TIC, THIC, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que c'est que cette transformation, mais c'est assez remarquable. Vous avez les trois atomes d'azote là, qui finissent ici. Vous avez, donc ils étaient là, on les retrouve au sein d'un cycle à 6 maintenant. Vous avez le phosphate ici, et puis vous avez perdu un morceau de molécule. Et puis vous avez la deuxième radicale SAM, elle est ici. Là, c'est plus simple, mais c'est une tyrosine qui est transformée en déhydroglycine. Alors, TIC, c'est donc une enzyme radicale SAM. Vous voyez, c'est un travail récent. Steve Illick et Begley. Ah oui, j'aurais dû dire, alors voilà un type extraordinaire. C'est Ted Begley, à Cornell. Ted Begley est vraiment un biochimiste assez dément qui a étudié tout un tas de processus biosynthétiques. Et qui, en particulier, a développé toute l'enzymologie de la thiamine. Voilà. Donc, structure rayons X de TIC, à nouveau, vous voyez. Donc là, c'est la même configuration. C'est-à-dire que vous voyez le cluster 4-fer-4-soufre, la S-adénosine-méthionine, et puis vous voyez le substrat. Ici. Donc là, on est aussi dans la même configuration que dans la lysine aminomutase. Le radical va être formé ici. Et oui, c'est là. Ou là, voilà. Il va être formé ici et il va être en position pour attaquer directement le substrat. Voilà. Alors, il y a eu un travail formidable qui a été alors très, très récent. Vous voyez, c'est publié en 2009-2010, où il a fait tout un tas de marquages de substrat. Pour démontrer que ce carbone-là finissait... Vous voyez, donc, il y a quand même pas mal de choses du sucre qui disparaissent. Mais ce carbone-là finissait sous forme de formiate, que ce carbone-là finissait sous forme de monoxyde de carbone, que, évidemment, le carbone qui porte le phosphate est là, que ce carbone en bleu finit ici, dans la molécule, et que ce carbone finit là. Vous voyez ? Et ça, c'est avec des manips de marquage au carbone 13, et il y a eu des manips de marquage au deutérium. Cet hydrogène, donc il y a un certain nombre d'hydrogènes qui sont perdus, mais vous voyez que cet hydrogène-là et celui-là se retrouvent avec un hydrogène du solvant sur un méthyle. Un des hydrogènes ici reste avec le phosphate sur ce carbone, donc on a l'impression que ce morceau-là reste complet, mais il y a eu quand même un échange parce que ça, c'est un hydrogène du solvant. Et voilà. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance des réarrangements d'une telle molécule, mais c'est assez extraordinaire. Voilà, alors je vais peut-être essayer de vous faire comprendre comment les choses peuvent se passer. À nouveau, je vous montre la structure ionique. Je ne crois pas que j'aurai l'occasion de l'utiliser, mais enfin, c'est joli. Voilà, donc l'idée est la suivante. Vous créez le fameux radical 5' déoxyadénosyle, toujours le même. Et voilà le substrat. Donc ce qui est proposé, c'est qu'il y a arrachement de cet atome d'hydrogène. Un seul, donc il va en rester un. Vous avez ouverture de cette liaison carbone-oxygène. Vous créez un carbocation ici, alors il faut un proton, hein, puisqu'il y a un oxygène moins assisté par un proton. On obtient ceci. Ceci se traduit par la perte de la partie basique, fermeture, double liaison, départ, et on obtient ceci. Ce truc est relargué, mais il reste à proximité dans le site, il réattaque sur ce carbone, c'est un nucléophile, pour donner cet intermédiaire-là. La 5' déoxyadénosine, qui est maintenant hydrogénée, qui n'est plus radicalaire, redonne son hydrogène par arrachement de l'atome d'hydrogène sur ce radical, et on obtient cet intermédiaire ici. Et le radical qui est formé ici va maintenant arracher cet atome d'hydrogène. Tout ça colle avec les marquages, et tout ça se passe dans le site actif, sans bouger. Vous avez un peu comme dans la lysine aminomutase, ouverture de cette double liaison de façon homolytique, formation d'un radical là et attaque pour fermeture. Vous avez ce cycle A3 qui s'ouvre pour donner cet intermédiaire. Ceci conduit à la cassure. Je ne sais plus comment. Si, ici, vous voyez, cassure de cette liaison. Voilà. Et à nouveau, ce radical intermédiaire réagit avec ce qui a été libéré de façon intermédiaire. Je ne veux pas continuer à détailler, mais c'est tout un tas de réarrangements radicalaires pour, à la fin, donner le produit. Et tout ça se passe... ces mouvements de molécules, ces accrochages de radicaux au sein du site actif. C'est assez extravagant. C'est une hypothèse, vous voyez, mécanistique de travail qui est d'une très grande complexité, qui colle parfaitement avec les marquages. Mais là, on se dit vraiment que la protéine a des propriétés absolument magiques de contrôle de ces molécules qui se cassent, qui se tournent, qui réattaquent autrement, qui se recassent, qui retournent, enfin, etc., etc. Voilà, la nature sait faire des choses comme ça. Alors, dernier point, et puis je termine là-dessus. Là, c'est un peu plus évident. C'est la tyrosine qui va donner la déhydroglycine qui va être utilisée ensuite. Eh bien là, c'est un radical 5' déoxyadénosyle qui va arracher un atome d'hydrogène. Donc le substrat, c'est une tyrosine libre. Ça donne ce radical phénoxy qui va conduire à la cassure de la liaison ici carbone-carbone pour libérer un fragment qui est déhydroglycine ou radical glycinyle, mais avec les électrons et les protons, on arrive à retomber sur ses pieds. Et puis, on finit par le crésol. Qui est un sous-produit de la réaction. Voilà, alors je vais peut-être si quand même dire cette chose-là. Pour ceux qui étaient là, il y a aussi l'an dernier, on en a parlé, les hydrogénases. Ça sera bon, mes deux dernières dias. Les hydrogénases, vous vous souvenez qu'il y avait une propriété de ces hydrogénases, donc je vous rappelle, hein, ces hydrogénases, on s'y intéresse parce que ce sont des systèmes assez fabuleux pour pour les recherches dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un magnifique catalyseur pour la réduction de l'eau en hydrogène ou pour, par exemple, dans des électrolyseurs ou pour, dans des bioélectrolyseurs ou pour l'oxydation de l'hydrogène pour donner des électrons dans des piles à combustible, donc dans des sortes de biopiles à combustible. J'avais déjà évoqué ça plusieurs fois. Le site actif, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que lorsqu'on a étudié ces enzymes, pas nous, mais d'autres, et notamment la structure IOS-X l'a confirmé, on s'est aperçu que le site actif avait des atomes de fer qui étaient liés à du monoxyde de carbone et du cyanure. Ça, c'était une chose vraiment tout à fait étonnante, hein, je l'ai déjà évoqué. CO et CN sont considérés en général comme des vrais poisons du vivant, et pourtant, vous savez maintenant que la nature synthétise du cyanure et du monoxyde de carbone, en particulier pour créer ces sites actifs qui sont si importants. Et donc, nous nous sommes intéressés, avec d'autres, à comment la nature faisait pour synthétiser du cyanure et du CO. Personne ne savait ça jusqu'à très peu de temps. Il y a eu beaucoup de travaux très compétitifs. Nous, on a fait un certain nombre de choses. Voilà, un travail qu'on a publié en 2009. On a été les premiers à démontrer que l'enzyme, une enzyme importante, était IgG qui décomposait la tyrosine. Et on s'est aperçu que cette protéine IgG ressemblait beaucoup à la protéine TH, dont je vous ai parlé juste à l'instant. Et donc, il y a eu cette hypothèse que peut-être la façon dont la nature produisait du CO et du CN, c'était à partir de la tyrosine. Et en effet, c'est ce qui a été plus tard, vous voyez, 2010, par Peter Roach et John Peters, et aussi par John Broderick, c'était que, en effet, pour produire du CO, du monoxyde de carbone et du cyanure, la nature a choisi de décomposer de la tyrosine. Je ne pense pas qu'un chimiste aurait imaginé un truc pareil, mais c'est ce qui se passe. Et vous voyez, c'est la même chimie qui démarre comme dans la TH. Donc là encore, c'est toujours cette idée, quand la nature a trouvé une solution pour quelque chose, elle l'utilise à nouveau. Et là, c'est une autre enzyme, mais qui a des similitudes, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, elle utilise la tyrosine, crée ce radical. Ce radical se casse ici pour donner la déhydroglycine. Et c'est cette déhydroglycine qui est une source de cyanure et CO par décomposition. De la déhydroglycine, assistée évidemment par des transferts de protons. Là aussi, on ne sait pas très bien comment tout ça est activé. Mais voilà, c'est ça l'histoire. Donc, les hydrogénases dépendent de la capacité d'une autre enzyme de décomposer de la tyrosine en cyanure et en monoxyde de carbone. Et j'en ai terminé. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, j'ai essayé de rentrer un peu dans les détails, hein, pour vous montrer la beauté de cette chimie. Enfin, de mon point de vue, franchement, je ne connais rien de plus complexe du point de vue de la chimie que ce que je vous ai montré aujourd'hui avec cette gestion des radicaux et l'utilisation des radicaux. C'est de la chimie redox d'une très grande complexité. À nouveau, voilà, c'est ce qui se fait de plus difficile. Mais en même temps, ce qu'il faut retenir à nouveau, c'est que ce dogme que les radicaux sont des espèces à proscrire absolument, en tout cas que la nature aurait proscrite, eh bien c'est faux. Il y a des milliers de réactions biologiques qui utilisent des radicaux. On peut apprendre beaucoup de cela. Peut-être que les chimistes, à partir de là, vont, après avoir quand même pas mal abandonné la chimie radicalaire, vont peut-être reprendre ces concepts pour inventer de nouvelles réactions basées sur les radicaux. Mais encore une fois, il faut bien se souvenir qu'on est dans des enceintes protéiques qui protègent énormément ces radicaux, qui permettent de les gérer par des liaisons hydrogènes, par des liaisons électrostatiques, par des transferts de protons, etc., etc. Et que si on veut faire de la chimie un peu comparable, eh bien, il va falloir inventer aussi ces systèmes de protection en partie, pour faire de la chimie sélective, hein, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de faire de la chimie très, très sélective. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, j'y réponds tout de suite, sinon on discutera tout à l'heure.